Philippiens chapitre 1 et le verset 9, où nous voyons que Paul dit « Et ce que je demande dans mes prières » Donc là, il va nous donner le contenu maintenant de sa prière. Nous avons déjà considéré son état d'esprit dans la prière, plein de gratitude, plein de joie. Mais le contenu maintenant, pour ceux qui prient, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. C'est sa prière. Bon, vous commencez ce matin. Regardez le verset 9. Et ce que je demande dans mes prières. Je veux juste commencer avec cette phrase. Parce que Paul vient d'exprimer son amour pour les chrétiens de Philippe. Il vient de leur dire dans les versets précédents qu'il les aime, qu'il les chérit avec l'amour de Jésus-Christ. Et alors, que devrait être la première démonstration de notre amour? Si on aime vraiment quelqu'un, si on aime nos frères et sœurs en Christ, que devrait être la démonstration d'amour? Et nous voyons ici que l'amour chrétien pour un autre devrait s'exprimer d'abord dans quoi? Dans la prière. N'est-ce pas? C'est aussi simple que ça. Il les aime, donc qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour eux. Il les aime, donc il prie pour eux. Nous ne pouvons pas le voir parce que c'est si simple, mais il faut le souligner, parce que l'amour véritable des chrétiens les uns pour les autres se démontre toujours en prenant ceux qui sont les récipients de cet amour devant le trône de la grâce. Si on aime quelqu'un, en tant que chrétien, on va prier pour eux. Et ceux qui ne prient pas, soit, premièrement, ils n'ont pas vraiment l'amour pour cette autre personne, ou soit, et c'est plus probable, ils ne croient pas vraiment ce que Dieu dit concernant la prière, l'importance de la prière, la puissance de Dieu qui agit par la prière. Donc nous voyons que l'amour chrétien pour autrui devrait s'exprimer d'abord dans la prière. D'accord? Il faut simplement le souligner. Mais après, on va se demander pourquoi prie-t-il. Qu'est-ce qu'il a en vue ici? Et là, je pense en gros ici. De quoi pense-t-il? Il y a plusieurs sujets de prière, mais lui, il est visé sur un jour, sur quelque chose de spécifique. Regardez le verset 10 où il dit « Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables ». Nous allons revoir ces phrases tout à l'heure. Mais voilà ce que je veux que vous voyez. Pour le quoi? Pour le jour de Christ. Vous voyez ça? Pour le jour de Christ. Donc, gardez cette phrase en tête, et puis regardez le verset 6, juste un petit peu plus haut, où il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Et c'est quoi l'expression qui suit? Pour le jour de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez le lien entre ces deux versets? L'accomplissement culminant de l'œuvre que Dieu fait dans les siens, dans les croyants, de l'œuvre de perfectionnement qu'il est en train de faire dans tous les croyants, et qu'il a commencé lui-même dans le verset 6, et bien l'accomplissement final sera quand? Le jour de Jésus-Christ. Et puis la réponse culminante à la prière de Paul viendra quand? Verset 10. Au jour de Jésus-Christ. Donc il se réfère tous les jours à ce jour splendide quand Jésus reviendra, quand il apparaîtra. Et donc ce qu'on découvre, c'est que ce dans lequel Paul exprime une telle confiance dans le verset 6 est ce pour lequel il prie dans les versets 9 à 11. La promesse de Dieu et la prière de Paul sont liées. Vous voyez le lien ? Il y a la promesse de Dieu et puis la prière de Paul sont effectivement pour la même chose. Et qu'est-ce que c'est? C'est le perfectionnement de l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'on a dit la semaine passée que la souveraineté de Dieu ne décourage jamais la prière. Elle encourage la prière parce que nous savons que nous allons recevoir ce pour lequel on prie. Ayant exprimé cette confiance en Dieu, verset 6, il prie maintenant que Dieu agit selon sa promesse. Et quand nous approchons à Dieu, c'est ce que nous devons faire. Nous devons approcher à Dieu avec ses propres promesses, pour lui demander d'agir et de répondre, d'agir selon ses promesses. C'est ce que Paul fait ici dans ce chapitre. Et donc nous avons intitulé le sermon la semaine dernière qui parlait du verset 6 comme confiance dans le perfectionnement de l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, avec comme texte les versets 9 à 11, une prière pour le perfectionnement de l'œuvre de Dieu. Et pour vous rappeler, j'emploie le mot perfectionnement, pas dans le sens d'être parfait tout de suite ou sans tache, pur, mais dans le sens de perfectionner, de développer cet accroissement des qualités en quelqu'un ou quelque chose dans un sens positif. C'est ce que Dieu est en train de faire, en train de nous sanctifier, en train de nous perfectionner jusqu'au jour où ce sera parfait, quand Jésus reviendra. Paul prie pour leur perfectionnement, pour ce processus par lequel Dieu les perfectionne. Et c'est Dieu, bien sûr, qui les perfectionne. Cela, nous pouvons être bien sûrs. Il l'a dit dans le verset 6. Mais Paul baisse sa tête maintenant et il prie que Dieu continue ce processus de perfectionnement en nous. Il prie pour ça. Est-ce que vous priez pour ça? Quand vous priez à Dieu, est-ce que vous priez que pour vos études, pour votre futur, pour vos finances, pour votre voiture qui est en panne, pour vos enfants qui sont malades? Ou est-ce que vous avez comme requête de prière votre propre perfectionnement dans le Seigneur, votre propre sanctification? Est-ce que vous demandez à Dieu dans vos prières qu'il vous rend, quoi qu'il faut, qu'il vous rend plus comme Jésus-Christ, son Fils? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous? Ou est-ce que le loyer et les études sont plus importants que ça? Paul, il a ces choses à cœur. Et cette prière nous indique, dans ce que je crois sont trois demandes principales, les différentes étapes du perfectionnement chrétien, ou plutôt de l'œuvre de Dieu dans le croyant. Donc nous allons apprendre ce que Dieu fait dans les croyants en regardant cette prière. Parce que personne ici est sur la même leçon dans cette école de perfectionnement. Il y en a qui sont tout au début, même de la première leçon peut-être. Il y en a qui sont peut-être plus avancés dans l'école de la sanctification. Mais aucun parmi nous a fini la classe, tout simplement parce que c'est que au jour de Jésus-Christ que ça sera parfait. Jusqu'à la mort, Dieu continue à travailler sur nous pour nous rendre plus comme lui. Mais néanmoins, nous voyons dans cette prière les différents éléments de l'œuvre de perfectionnement que Dieu fait en nous. Dans le verset 6, comme on a déjà dit, nous recevons l'assurance que Dieu est au travail, mais dans les versets 9 à 11, nous voyons Dieu au travail, nous voyons ce qu'il fait en nous, ce qu'il fait dans le croyant, quand il est en train de les perfectionner. Donc, regardez avec moi cette prière pour la perfection, pour un perfectionnement, pour la sanctification. Il prie d'abord, et ça c'est la première chose qu'il faut souligner, il prie pour une augmentation constante d'amour. N'est-ce pas? Regardez le verset 9, hein, parce qu'il faut que vous le voyez vous-même, dans le verset 9. « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. » Une augmentation constante d'amour. Un amour pour qui? Un amour pour Paul? Oui, je dirais oui. Un amour réciproque l'un pour l'autre? Je dirais oui. Un amour pour Dieu? Je dirais oui. C'est toutes ces choses. Paul ne précise pas l'objet de leur amour. Je crois qu'il le fait exprès parce que je crois qu'il se réfère à tous ces objets. Et aussi parce qu'elles sont inséparablement liées. Hein, vous ne pouvez pas aimer Dieu et ne pas aimer un croyant semblable. N'importe son caractère, il faut le dire. Parce que Dieu a dit, celui qui n'aime pas demeure dans la quoi? Mort. Et ici, il parle de l'amour pour notre prochain. On ne peut pas aimer Dieu et pas aimer le prochain. Toutes ces amours, amour pour Dieu, amour pour ses serviteurs comme Paul, amour pour les uns les autres, ils sont entrelacés. On ne peut pas les diviser, on ne peut pas les séparer. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est très révélateur que quand Paul prie pour le perfectionnement du chrétien, pour sa maturité chrétienne, c'est une autre façon de le dire, il commence avec quoi? Il commence avec l'amour. Vous voyez ça? Avec amour. Et je doute que nous saisissons la priorité d'amour dans la vie chrétienne, parce que l'amour, la Bible dit, est l'enseigne principal d'un chrétien. C'est ça qui démontre au monde que nous sommes chrétiens. On n'a pas besoin d'un t-shirt qui dit « J'aime Jésus ». Vous n'avez pas besoin d'un autocollant qui dit « Jésus » sur la voiture. Vous avez un badge que Dieu vous a donné pour démontrer aux hommes, pour démontrer au monde que vous êtes chrétien, que vous faisiez partie de la famille de Dieu. Et c'est quoi ce badge? C'est l'amour, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit en Jean chapitre 13? À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour pour qui? Les uns pour les autres. Donc, l'amour est l'enseigne primaire du chrétien. C'est pour ça que c'est si important. C'est pour ça que je crois que Paul ici commence avec l'amour dans la vie des chrétiens. Et l'amour est aussi le plus grand fruit de l'esprit. La Bible emploie réellement ce terme, le plus grand, quand il dit dans 1 Corinthiens 13 et verset 13, « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité ou l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est quoi ?» Hein, si c'était à vous de choisir, vous auriez choisi quoi? Mais Paul nous dit que la plus grande de ces choses, c'est quoi? Dites-le. C'est l'amour, n'est-ce pas? C'est l'amour pour Dieu. Parce que dans l'éternité, on ne marchera plus par la foi, on marchera par la vue au ciel. L'espérance que nous avons en Dieu sera tout accomplie, donc on ne vivra pas dans l'espérance du futur, mais dans le présent. Donc il y aura, dans un sens, plus de foi au ciel, plus d'espérance au ciel. Mais l'amour demeurera pendant toute l'éternité. C'est pour ça que c'est le plus grand de ces trois choses. Et l'amour aussi est une des caractéristiques principales de Dieu. Quand Dieu a choisi de se révéler dans l'épître de Jean, il a fait ainsi avec ces mots simples. Dieu est amour. C'est comme ça qu'il se révèle. Donc, je dis pourquoi est-ce que l'amour est important? Puisque Dieu est amour. Est-ce que vous avez jamais décrit quelqu'un d'autre? Ah, vous la connaissez? Eh bien, elle... elle est amour. Mais Dieu, on peut le dire comme ça, il est amour. C'est-à-dire tout ce qu'il fait est caractérisé par l'amour. C'est un de ses caractéristiques les plus importantes. Donc vous voyez ça, regardez encore le verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Regardez ce mot « augmente ». Il est mis dans le temps présent continuel dans le grec. Donc, ce qu'il est en train de dire ou en train de prier, c'est que votre amour puisse être toujours en train d'augmenter. C'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Et puis, il ajoute à cette intensité avec ses mots. C'est comme un grand crescendo dans un orchestre qui devient de plus en plus fort. Il dit que votre amour augmente continuellement. Et puis, il dit quoi? De plus en plus, voyez ça, dans le verset 9, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour soit continuellement en train d'augmenter, d'abonder, déborder, de plus en plus et toujours plus encore. Que ça grandit, 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 qu'il devienne plus grand, qu'il ne s'arrête pas de grandir. Donc, je dois vous demander, si vous voulez que Dieu vous perfectionne, et qui veut pas ça, hein? Qui va dire ici que vous êtes vraiment satisfait avec votre maturité spirituelle? Hein, vous êtes arrivé déjà. Vous n'avez pas besoin de grandir, d'être perfectionné par le Seigneur. Bon, si vous voulez grandir dans votre foi, si vous voulez être perfectionné, si vous voulez que Dieu continue le travail qu'il a commencé en vous, eh bien, il va commencer ici. Il va commencer avec votre vie d'amour. Vous dites, mais ma vie amoureuse, c'est quelque chose de privé. Pas dans l'opinion de Dieu. Il a dit que c'est par votre vie d'amour que tous les hommes sauraient que vous êtes son disciple. Il l'a conçu de cette façon. Parce que ce qu'on aime, c'est ce qu'on a vraiment au cœur, au plus profond du cœur. Et vous dites, mais moi, je ne suis pas une personne très affectueuse, hein, je ne suis pas comme ça, moi. Eh bien, sans doute, il y avait de vos semblables à Philippe, et c'est pourquoi Paul prie pour eux. Il avait besoin de devenir plus affectueux envers les autres. Donc, si vous n'êtes pas, ben, vous devez prier pour que Dieu fasse ces choses en vous. Et vous savez quoi encore? Il veut que cet amour augmente de plus en plus. C'est-à-dire, il ne pense pas de l'amour comme une étape statique qui reste pareille. Quelqu'un dit, moi j'aime autant que ça. Et quelqu'un d'autre dit, ah ben moi j'aime autant que ça. Et comment faire avec les enfants? Tu m'aimes combien? Et puis on dit, ah j'aime autant que ça. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, moi j'aime autant que ça. Et ben ça, à Dieu ça lui est égal. Ce qu'il veut, c'est que votre amour, quoi, augmente. Et même si vous dites, bon, je suis déjà arrivé, je sais aimer les autres. Non. Il veut que votre amour augmente de plus en plus. Il a besoin de ce progrès ininterrompu. Et vous voyez combien c'est important pour Dieu que nous croissions dans l'amour. Ça, c'est un bon test. Je vous encourage d'un jour de prendre 1 Corinthiens chapitre 13 qui parle de l'amour. Et au lieu de lire le mot amour ou charité, vous mettez votre propre nom là-dessus. D'accord? Pour voir comment ça lit. Donc vous allez lire quelque chose comme ça. Timothée est patient. Lala est plein de bonté. Je vais appeler des noms ici. Monica n'est point envieuse. Fernando ne se vante point. François ne s'enfle point d'orgueil. Gilles ne fait rien de malhonnête. Yaya ne cherche point son intérêt. Prudence ne s'irrite point. Léonard ne soupçonne point le mal. Et puis vous mettez votre propre nom. Vous ne réjouissez point de l'injustice. Vous réjouissez de la vérité. Vous excusez tout. Vous croyez tout. Vous espérez tout. Vous supportez tout. Vous voyez, quand on met notre propre nom, c'est plus aussi belle, hein, quand on parle de l'amour. Et si ça vous ne décrit pas, eh bien vous avez besoin de croître dans l'amour. Vous avez besoin que Dieu fasse augmenter en vous de plus en plus son amour. Et on ne peut pas le nier qu'une personne spirituelle est une personne qui abonde en amour. Et c'est un amour chaleureux, c'est un amour affectueux même. Regardez Paul, regardez le verset 7, regardez ce qu'il dit. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Vous voyez l'expression qu'il utilise d'affection profonde, moi je vous porte dans mon cœur. C'est un amour affectueux, chaleureux pour eux. Et puis regardez le verset 8, c'est encore plus fort. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Vous savez ce que c'est le mot, littéralement dans le grec? C'est les entrailles de Jésus-Christ. On ne dit plus ça, il n'y a pas le gars qui va à sa copine et qui dit « Je t'aime avec tous mes entrailles, ça ne va pas marcher. » Je ne vois pas ça dans un SMS. Mais dans le temps, c'est ce qu'il disait. Maintenant, on parle du cœur, je t'aime de tout mon cœur. Mais si vous ouvrez la poitrine et vous sortez le cœur, c'est pas beaucoup plus beau, hein, le cœur. En tout cas, vous pouvez dire cœur comme vous voulez. Mais il dit, je vous aime avec la tendresse de Jésus-Christ. Il prétend les aimer, avoir une affection, une tendresse pour eux, comme celle de Jésus-Christ même, qui s'est donné la vie. Et donc une personne spirituelle abonde en amour. Et donc je vous supplie de ne pas penser aux autres, maintenant de penser à vous-même. Et de demander au Seigneur de révéler vos fautes dans cet endroit, votre manque d'amour. Et si vous voulez croître spirituellement, eh bien priez pour cette augmentation continuelle d'amour. Un amour qui abonde de plus en plus. Je crois qu'il y a deux manières dont l'ennemi détruit l'amour. Le premier, c'est en le ratatinant, c'est-à-dire en réduisant en taille jusqu'à ce que ça se déforme et détruise. Et l'amour, des fois, on parle de l'amour, mais ça devient si, je sais pas, si sans vie, cruel, sec, jusqu'à ce sans signification. Et donc on dit, on vous aime et on va vous tuer en même temps. Hein. C'est presque comme ça l'air qu'on a chez certains croyants. Ils vont nous dire qu'ils nous aiment, mais on ne sent même pas de tout. Et l'autre façon de détruire l'amour, le vrai amour chrétien, c'est en l'enflant, comme un estomac d'un enfant affamé qui est enflé même. Mais c'est grotesque, ça devient si enflé, si défiguré, qu'après c'est sans signification aussi. Je pense au groupe, aux réunions œcuméniques où il y a des gens de toutes les religions et ils parlent de l'amour, de l'amour, de l'amour, mais ce n'est pas l'amour de Jésus-Christ. Donc c'est sans signification. C'est presque grotesque parce que ce n'est pas le vrai amour, même s'il décrit comme ça. Il faut faire attention que ce soit l'amour dont Dieu veut, dont il parle. Il veut pas que cet amour qui abonde en nous, qui augmente en nous, soit comme une bouche d'incendie cassée, vous savez, qui met d'eau partout dans la rue. Il veut que cet amour soit canalisé, dirigé vers certains buts. Et donc c'est pour ça qu'il ne prie pas simplement pour une augmentation constante d'amour, mais que, regardez le texte, que cet amour augmente de plus en plus, regardez le verset 9, en connaissance et en pleine intelligence. Paul prie pour une abondance d'amour toujours croissante, oui, ça c'est vrai, ça c'est le point principal, mais quel type d'amour? Et voici le premier des trois points secondaires, ou sous-points si vous voulez. Il prie pour un amour plein de connaissance. Regardez le verset 9 encore. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. En quoi? En connaissance. La Bible ne parle pas ici de votre QI ou de vos notes à l'école, heureusement. Néanmoins, la prière est que votre amour serait caractérisé par la connaissance. Que votre amour augmente et abonde dans la connaissance. De quoi parle-t-il? Eh bien, ce mot que nous avons traduit par connaissance, c'est un mot commun, hein, pour la connaissance, nous aussi, sans grec. Pourtant, il a une petite préposition au début qui intensifie le mot et qui indique une connaissance orientée sur un objet, donc une connaissance spécifique, on peut dire. Pas simplement une connaissance générale du monde, des sciences, des mathématiques. Là, il parle d'une connaissance dirigée vers un objet spécifique. Et quand nous regardons ailleurs dans le Nouveau Testament, nous voyons que ce mot est utilisé et n'est que utilisé pour une connaissance spirituelle, une connaissance de Dieu et de sa révélation dans la Bible. Donc je crois que c'est ça de quoi il parle ici. Une connaissance de Dieu et de sa révélation que nous trouvons en étudiant la Bible. Parce que Dieu ne met aucune valeur sur l'ignorance. Il y en a qui sont fiers du fait qu'ils sont très ignorants. Mais Dieu ne met aucune valeur sur l'ignorance. S'il nous a donné une révélation, c'est qu'il veut que nous la connaissons. Il veut qu'on la lise au moins. Il veut qu'on l'étudie. Il veut que nous la mémorisons, que nous la comprenons. Il veut que notre amour pour lui soit un amour plein de connaissances. Si vous venez à moi, vous dites, est-ce que vous aimez ma femme? Je dis, oui, bien sûr, j'aime ma femme. Et comment s'appelle-t-elle? Ah, je sais pas, j'oublie son nom. Ah, et c'est quand son anniversaire? Oh, tu sais, j'ai jamais appris son anniversaire. Je devrais le mémoriser, mais je sais que je l'ai marqué quelque part. Ah oui, et c'est quoi ça? Et qu'est-ce qu'elle a mangé? Je sais pas. Bon. Ah oui, elle a des frères et sœurs? Ah, il faudrait que je lui demande un jour si elle a des frères et sœurs. Mais vraiment, je vous assure que je l'aime, mais ouais, j'avoue que je la connais pas très bien. Est-ce que vous me croirez? Si on aime quelqu'un, on veut le connaître, n'est-ce pas? On veut apprendre d'eux, on veut savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils pensent, leurs idées, leurs opinions, leur passé, on veut tout savoir. Si on aime quelqu'un, on veut tout savoir. Et comment est-ce qu'on peut dire, ah, j'aime Dieu, mais franchement, de lui connaître, c'est pas mon truc. De lire la Bible, non, c'est pas moi ça. Mais je l'aime de tout mon cœur, je suis prêt à mourir pour Dieu, mais j'ai pas 5 minutes pour lire sa parole le matin. Mais vraiment, vous croyez que Dieu apprécie ce type d'amour? Il veut que notre amour pour lui augmente en connaissance, cette connaissance spirituelle de lui. Comment est-ce que vous pouvez démontrer votre amour pour le Seigneur? C'est en apprenant plus de lui. Et c'est ce que nous essayons de faire même aujourd'hui. C'est pour ça que le message est basé sur sa révélation et pas simplement sur mes propres idées. Nous voulons lui connaître. Donc c'est un amour plein de connaissances qu'il cherche. Et puis regardez qu'il prie deuxièmement pour un amour plein de discernement. Un amour discernant. qui sait discerner. Et je vois ça dans le verset 9 où il dit « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence dans la Louis II. » Je crois qu'un beau mot à mettre à côté de cette phrase « pleine intelligence » serait le mot « discernement ». Il y a aussi les mots « perspicacité » ou « la perception » qui seraient également des termes appropriés. Mais il parle ici du discernement. C'était un mot qui était employé pour une perception avec les sens, soit la vue, l'odorat, le goût, comme ça. Mais on arrivait à percevoir par les sens ce que c'était. Si vous m'apportiez un jour un cactus, un oreiller, et j'ai les yeux bandés pour ne rien voir, je pourrais quand même discerner, si vous voulez, le cactus contre l'oreiller. Je pourrais les discerner, l'un contre l'autre. Et c'est de ce type de discernement que ce mot se rapporte. Ce pouvoir de discerner entre les choses qui diffèrent. Ce mot, quelqu'un a dit, se rapporte à la capacité de prendre des décisions morales appropriées au milieu d'un vaste choix de possibilités différentes et difficiles. Voilà, c'est la capacité de prendre des décisions morales appropriées au milieu d'un vaste choix de possibilités différentes et difficiles. Et c'est la vie, n'est-ce pas ? Chaque jour, vous devez faire face à un tas de choix difficiles, différentes et difficiles. Est-ce que vous avez le discernement pour voir la différence entre ces choix ? C'est la capacité, quelqu'un d'autre a dit, de savoir bien gérer avec sagesse les affaires de la vie quotidienne. Et Paul prie au Seigneur qu'il leur fasse abonder leur amour dans cette sagesse. Donc si vous voulez comparer ces deux choses, je crois que le mot « connaissance » que nous voyons dans le verset 9 parle de notre connaissance personnelle par rapport à Dieu, et ainsi c'est vertical dans sa direction. Et puis le discernement, cette pleine intelligence, est plus horizontal. Il se rapporte à notre capacité de percevoir et de gérer les affaires quotidiennes de la vie. C'est ça que Dieu cherche, un amour en nous qui nous pousse à connaître Dieu et à bien discerner les choses dans la vie. Ainsi, il prie pour un amour plein de connaissances, un amour plein de discernement, et il prie pour ces choses afin que, troisièmement, il puisse avoir... Regardez le verset 10, un amour discriminant. Quand il dit le verset 10, pour le discernement des choses les meilleures. Bon, on va expliquer ce mot dans un petit moment. Mais le but de cet amour, qui augmente en connaissance, en discernement, est afin qu'on puisse distinguer entre l'essentiel et le non-essentiel. Et j'ai choisi le mot discriminer, même si je sais que c'est un mot qui est souvent péjoratif, mais j'ai choisi ce mot parce que, selon le dictionnaire, c'est le fait de différencier en vue d'un traitement séparé. Le fait de différencier en vue d'un traitement séparé. Donc il y a des temps où il ne faut pas le faire. S'il y a deux hommes devant vous, vous n'allez pas les différencier à cause de la couleur de leur peau. Ça serait un péché, ça serait mauvais. Mais si vous préparez quelque chose pour le repas fraternel, j'espère que vous allez différencier pour traiter différemment entre les pommes de terre et les vers de terre, ok? Parce que sinon, ce serait pas bon, quoi. Il faut distinguer, il faut savoir discriminer dans certains cas. C'est une bonne chose, parfois. Et ce mot qui traduit discernement dans Louis II, il signifie, selon le dictionnaire grec, de mettre à l'essai et d'examiner ou mieux d'approuver après un essai soigneux. D'approuver après un essai soigneux. C'est pour ça, une des traductions le met comme ça, alors vous pourrez juger ce qui est le mieux. Une autre le met comme ça, ainsi vous sachez apprécier ce qui est important. Et ce mot a été employé pour le fait de tester les métaux et les pièces de monnaie afin de déterminer leur valeur. Ils les testaient, ils utilisaient ce mot ici, pour savoir s'ils avaient de valeur ou non. Dans le contexte politique, on le trouve employé pour le fait d'examiner un candidat pour poste afin de déterminer s'il est capable de remplir ce poste. Et puis Hérodite, qui est un historien grec, l'a utilisé pour laisser des bœufs pour les prêtres égyptiens afin de voir s'ils étaient, soi-disant, dignes d'être sacrifiés. Il devait les inspecter. Et il utilise ce mot. Il les inspectait afin de les approuver. Ah, ceux-ci sont dignes d'être offerts en sacrifice à notre Dieu. Et puis dans la Bible, il est employé en Romains 12, 2, vous ne devez pas vous tourner là-bas, mais je vais vous le lire, où la Bible dit « Ne vous laissez point modeler par le monde actuel, ou ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour, vous savez ce qui suit, pour pouvoir discerner, examiner et approuver la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. » C'est ça que Dieu cherche en nous, ce pouvoir, cette capacité de discerner et puis approuver ce qui est bon. Ainsi, le verbe a référence au résultat de l'examen et signifie le fait d'accepter comme prouvé ou approuvé. Et je crois que l'origine de notre mot français « approuver » a la même signification, parce que ce n'est que quand vous avez passé quelque chose à l'épreuve, pour pouvoir prouver que c'est bon, que vous pouvez dire après que c'est approuvé. Parce que ça s'est passé à l'épreuve. Et ainsi, quand nous parlons du discernement des choses les meilleures, nous parlons d'un test et d'un choix qui est fait basé sur ce test, sur cet examen. Vous savez maintenant discriminer entre les choses. Les tester pour savoir ce qui est le meilleur. Et bien sûr, c'est l'amour qui nous aide à faire ça. Avez-vous jamais été confronté à deux options, et puis vous avez pu passer par un processus mental même, délibéré, dans lequel vous avez testé les options différentes, et puis vous avez pu éprouver celle qui était la meilleure. Et ainsi, vous avez fait votre choix. C'est-à-dire, vous avez examiné les possibilités et vous avez alors choisi le plus excellent. La Bible dit que Dieu veut que cet amour grandisse en nous pour que nous puissions faire ces choses. Quand il s'agit des hommes ou quand il s'agit de Dieu, c'est vraiment l'amour qui nous aide à distinguer. Parce que Jésus lui-même a résumé toute la loi dans ces deux commandements, et ces deux commandements avaient affaire avec quoi ? Avec quoi ? Avec l'amour, n'est-ce pas ? Aimer Dieu et aimer ton prochain. Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas pécher contre lui, tu sauras quoi faire envers ton prochain. Et si tu aimes Dieu avec toute sa force, toute ta pensée, tout ton esprit, eh bien tu sauras agir envers lui. Vous voyez, c'est l'amour lui-même qui nous aide à distinguer entre les choses. Donc ce n'est pas une chose de légalité, c'est une chose d'amour, c'est l'amour qui nous pousse. Et c'est triste qu'il y a des chrétiens qui disent « Oh, vous savez, c'est mon droit » ou « c'est ma liberté » ou ils pensent comme ça. Il n'y a rien de mal avec ça, ou la Bible n'indique pas que je ne peux pas, donc c'est plutôt dans un sens toujours négatif, mal, pas, des choses comme ça. Mais, mes amis, sur l'échelle de la maturité, c'est un niveau très bas. Parce que pour le chrétien spirituel, mûri dans sa foi, qui est perfectionné par le Seigneur, il pense de moins en moins de cette façon. Et vous savez qu'un homme ou une femme est en train d'être perfectionné dans l'amour de Dieu quand il commence à poursuivre l'excellence chrétienne. Quand il commence à distinguer, pas entre le bon et le mauvais, ou le légal et le illégal, mais entre le bon et quoi ? L'excellent. Vous voyez, c'est ce qu'il veut qu'il puisse trouver. Le meilleur. Pas simplement le bon, mais le meilleur. Entre le bon et le meilleur. C'est ça la pensée d'un chrétien qui progresse dans sa foi chrétienne, qui a un amour qui grandit et qui augmente. Il cherche, il distingue pour trouver toujours le meilleur. Mais laissez-moi vous montrer comment Paul faisait ceci. Regardez le chapitre 3, comme ça on n'a pas besoin d'aller trop loin. On va rester en Philippiens, mais chapitre 3. Et regardez le verset 5. Où il dit, moi circoncis le huitième jour. Alors dites-moi maintenant, est-ce que c'est mauvais d'être circoncis le huitième jour ? Non. De la tribu de Benjamin ? Non, c'est pas un péché. Hébreu né d'Hébreu ? quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, et certaines choses dans cette liste étaient moralement indifférentes, même bien, mais je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et il ne va pas s'arrêter là, regardez le verset 8, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, c'est le mot pour l'excrément, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Alors vous parlez de la discrimination, il le fait avec enthousiasme, Paul. Toutes ces autres choses, il les regarde comme de la boue. Et je crois que vous trouvez ce même sentiment quand Paul dit en 1 Corinthiens 10, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, parmi tout ce qui est permis, il y a des choses qui n'édifient pas. Donc, il ne pense pas entre le bien et le mal, surtout, il pense, ah oui, c'est permis, lui, il veut savoir si ça édifie, lui, il veut savoir si c'est utile. Vous voyez, c'est ces questions qui sont dans son esprit. Et donc, je vous dis, mes amis, je vous dis, que si nous permettons à Dieu de nous perfectionner jusqu'à ce point, c'est les mêmes questions que nous allons poser nous-mêmes. Nous n'allons pas faire des excuses, nous allons chercher le meilleur, comme il dit pour revenir au chapitre 1. Alors je vais vous mettre un défi, ou un test, pour vous le faire. Quand vous vous asseyez devant votre télé, ou devant l'internet, quelles questions sont posées par votre esprit, pendant que vous décidez ce que vous allez regarder, ce que vous allez visiter? Oh, c'est pas trop mauvais. Oh, quand même, on peut l'excuser. Ma femme a appris cette semaine dans son cours de civilisation à l'université que les Français passent en moyenne 3h07 par jour devant la télé, 2h17 sur l'internet, 1h20 en écoutant la radio, qui leur donne que 59 minutes pour la famille et les amis, et 38 minutes pour lire, en moyen, par jour. Donc, je sais que ça nous touche tous ici, que vous passez des heures plus que vous savez même. Cette semaine, j'ai pris note, j'allais lire certaines informations sur l'internet. Donc j'ai regardé ma montre, pour voir combien de temps je passe, et j'ai regardé ma montre un petit peu après, et presque une heure avait passé. Et je me suis dit, oh c'est pas vrai. Il y a des choses où je dois grandir aussi. Donc je sais que ça touche à nous tous ici, quand on parle de l'internet, de la radio, de la télé, de ce qu'on lit. Quelles sont les questions qui doivent se poser dans notre esprit? Est-ce qu'elles sont celles-ci? Que tout ce que vous regardez sur l'internet et sur la télé soit vrai. Qu'elle soit aussi honorable. Ah, ça, déjà, ça ne laisse pas beaucoup, hein? Que ce soit juste, que ce soit pur. Je me demande si on peut passer 3h07 devant la télé et voir que ce qui est pur. Je me demande. Tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, qu'il soit l'objet de vos pensées. Et on ne peut pas dire que, quand on est sur Internet ou devant la télé, que ces choses ne sont pas l'objet de nos pensées. On ne peut pas dire, ah, je suis en train de prier, mais je prie très bien devant la télévision. Non, bien sûr, ce sont l'objet de nos pensées. Alors, que ces choses soient ce que vous regardez comme film, est-ce que vous demandez, vous vous posez ces questions, ou simplement, oh, c'est pas trop mauvais? Est-ce que vous êtes en train de discriminer, de faire une différence pour les traiter différemment? Et est-ce que vous êtes en train de discriminer afin de chercher, comme dit le verset en chapitre 1, le meilleur? Le meilleur. Il y a des chrétiens qui ne discriminent même pas du tout. Il y a d'autres qui discriminent au niveau légal ou illégal, correct ou inacceptable. Et puis il y a ceux qui ont l'amour, qui abondent en connaissance de Dieu et dans les choses spirituelles et le discernement des choses, les meilleurs, et ils peuvent distinguer et puis approuver, tester et puis approuver ce qui est le meilleur, ce qui est l'excellent, et puis regarder tout le reste comme une perte, comme a dit Paul. Et ils ne le font pas par obligation, ils le font par quoi? Ils le font par amour. Voyez, c'est ça le but de tout ce passage. C'est l'amour qui nous pousse à faire tout cela. Et donc, ce n'est pas la maturité chrétienne de demander est-ce que c'est correct, c'est plutôt de demander est-ce que c'est le meilleur. Est-ce que vous savez discriminer entre les choses qui sont les meilleures et ceux qui ne le sont pas? Alors, que faut-il faire si vous n'avez pas cette maturité? Que faut-il faire? Hein? Il ne faut pas chercher trop loin, mais que faut-il faire? Que fait Paul? Il prie, n'est-ce pas? Il prie. Est-ce que vous n'avez jamais prié pour ces choses? Que Dieu vous aide, qu'il vous donne la sagesse, qu'il vous donne cet amour, que vous soyez poussé par l'amour pour lui. Et, encore une question, réfléchissez bien parce que c'est une question très difficile. Quelle est la première chose que vous devriez faire si vous voyez quelqu'un d'autre qui n'a pas cette capacité de distinguer ou de discriminer dans la vie et que vous voyez une manque de discernement en eux? Quelle est la première chose que nous devons faire? Ah, bien, on va avoir une réunion, on va en parler, hein? Ou on va parler aux autres? Non, quelle est la première chose que nous devons faire? Nous devons prier. Nous devons prier, comme Paul a fait. C'est un sujet de prière. Donc, pour résumer, Paul prie premièrement pour une augmentation constante d'amour. Il prie pour un amour plein de connaissances, pour un amour discernant et discriminant. Mais encore deux requêtes, on va les regarder rapidement. Deuxièmement, il prie pour un caractère irréprochable. C'est ça qu'il a en cœur pour les Philippiens. Notez le milieu du verset 10. « Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » Afin que vous soyez, vous voyez ce mot, afin que vous soyez, ça parle de ce que vous êtes. Ce que vous faites, c'est vos actions, ce que vous dites, ce sont vos mots, mais ce que vous êtes, c'est votre caractère. Il parle de leur caractère ici. Paul prie pour un caractère irréprochable, un caractère qui soit pur et irréprochable. Et ce mot traduit pur dans le Louis II est traduit sincère. Dans au moins deux versions françaises. Et j'aime bien aussi le mot sincère, un peu à cause de son histoire intéressante, ça vient du latin. L'histoire nous dit qu'il y avait un temps où, bien sûr, où la poterie était le produit principal de la cuisine, où les femmes devaient avoir des vases de poterie. Et quand il y avait des défauts, le potier prenait de la cire, et puis avec cette cire, il arrivait à cacher les défauts. Donc s'il y avait des trous dans la vase, ou il y avait des gaffes en le crayant, il pouvait le lisser un peu avec la cire, et puis avec un peu de peintre, on ne voyait plus rien. Mais pour qu'une vase ait de la valeur, pour qu'elle soit coûteuse, il fallait qu'elle soit sans, ou sin, comme ils disent en latin, sincere, sans cire. Vraiment, c'est le produit original. C'est-à-dire, il n'y a pas de défaut caché. Donc cette expression « sincere », « sans cire » venait dire « sans défaut caché ». Et c'est ce qu'il dit ici. Je prie que vous soyez comme ça, sincère, que vous soyez sans défaut caché. Et bien sûr, nous comprenons qu'une personne ne devient pas chrétien en étant sincère, mais j'espère que nous comprenons également que quand Christ nous sauve, c'est pour nous rendre purs et sincères, et irréprochables même. C'est afin de nous perfectionner. C'est comme il dit en Éphésiens chapitre 2, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, oui, mais qu'est-ce qu'il dit après? Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Vous voyez, c'est ça le but, pour de bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres sont une partie du plan de Dieu pour le croyant. Il veut que nous soyons sincère, il veut que nous soyons sincères, sans défaut caché, authentiques, c'est-à-dire que ce que vous voyez le dimanche matin et ce que vous êtes le lundi après-midi, vous ne vous déguisez pas en chrétien le dimanche pour enlever le déguisement après le lundi. Alors, êtes-vous sincères? ou êtes-vous un hypocrite? Êtes-vous pur? Il prie pour un caractère pur ou sincère, et puis, vous voyez, irréprochable. C'est un mot qui veut dire sans trébucher. Ça peut signifier de se faire trébucher soi-même ou de faire trébucher un autre. Et je crois que Paul parle des deux. Un caractère qui ne trébuche pas soi-même ni un autre, comme dans 1 Corinthiens 10 où il dit « Mais que rien dans votre comportement soit une occasion de chute, ni pour les juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'église de Dieu. » Il n'y a rien, 1 Corinthiens 10, 32, qui soit une occasion de chute. Ou comme dans Romains 14, 20, où Paul dit « Pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute. » Voilà, la même idée. Occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Et c'est le mot qu'il utilise ici, que vous soyez irréprochable, sans occasion de chute, soit pour vous-même, soit pour un autre. Et voici au point que Dieu veut que ses enfants vivent la vie chrétienne. Que nos mots, que nos actions, que nos choix ne causent dans aucun cas le trébuchement, soit de nous-mêmes, soit des autres. Et donc il prie pour une augmentation constante d'amour, il prie pour un caractère irréprochable, et puis finalement il prie pour une démonstration abondante d'une position juste devant Dieu. Je dois un peu expliquer ce que je veux dire. Mais regardez le verset 11. Vous êtes toujours avec moi là? Regardez le verset 11. Il prie qu'il soit rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ. Il parle ici d'un fruit de justice. De quoi parle-t-il? Est-ce que c'est un fruit qui est justice? Quand nous parlons de la grâce de Dieu, nous ne voulons pas dire tout simplement que Dieu est grâce, nous voulons dire que c'est une grâce qui trouve sa source en Dieu, n'est-ce pas? C'est une grâce de Dieu, qui descend de Dieu. Et la justice est cette justice imputée, ce qu'il va expliquer dans chapitre 3, verset 9, est la justice de Christ lui-même qui nous est donnée par la foi. Mais le fruit de cette justice, c'est un fruit qui descend, qui trouve sa source, si vous voulez, dans cette justice que nous avons, cette position juste que nous avons devant Dieu, c'est le résultat évident de notre justice devant Dieu, de la justice que Dieu nous donne. C'est une évidence, si vous voulez, de notre foi chrétienne. Donc c'est une référence à la justice imputée de laquelle coule naturellement une justice visible. Donc Paul prie pour une démonstration abondante de la position juste devant Dieu. Qu'il soit rempli du fruit de justice. Que leur vie soit comme une grande récolte. De même façon que vous pouvez aller dans un champ et voir des tiges rotes et des épis de maïs, et vous savez en regardant le champ que c'est un champ de maïs. Vous pouvez aller dans un autre champ, ah et ça, c'est un champ de blé. Vous pouvez l'observer, vous pouvez savoir, il veut que les gens puissent regarder le champ de votre vie, bien sûr dans un sens figuratif, et pas voir, ah, ça c'est une chrétienne, ça c'est un chrétien. Regarde la motion qu'il a, regarde l'évidence de sa foi, regarde le fruit de sa justice. Paul prie, Seigneur, qu'il soit rempli de ce fruit. C'est triste, mais nous connaissons tous des personnes où on se pose toujours des questions. Sont-ils vraiment sauvés? Ah oui, ils ont demandé au Seigneur de leur sauver, mais vous savez, depuis 20 ans, on ne voit pas trop de changements, on ne voit pas trop de fruits. On espère qu'ils sont justifiés devant Dieu, mais franchement, on ne voit pas grand-chose. Paul prie que ces chrétiens, Philippe, que le fruit dans leur vie soit tellement évident qu'il n'y aura pas de doute. Que les gens qui les voient puissent dire, ah, ça, c'est clair, ça, c'est un chrétien, ça, c'est quelqu'un qui a la foi en Jésus-Christ. Là, je vois que le fruit sort partout dans toutes ses décisions, surtout dans son amour qu'elle a ou qu'il a, mais nous le voyons partout. Alors, est-ce que vous voulez que votre vie, quand vous allez au travail, en classe et toutes ces choses, soit comme un fruit de justice, l'évidence de salut qui se démontre à tout le monde? Priez pour ça, mes amis, priez pour ça. notre vie, qu'elle soit remplie de fruits de justice, qu'elle soit une démonstration abondante de votre position juste devant Dieu. C'est la prière de Paul, c'est ce que Dieu est en train de perfectionner, c'est le travail qu'il a commencé et qu'il veut encore faire en nous. Mais dites-moi, pour terminer, c'est quoi le but de toutes ces choses? C'est quoi le but de toutes ces choses? Pourquoi? Parce que nous allons avoir une vie, une meilleure vie. Il y aura plus de paix avec nos voisins. Quel est le but de toutes ces choses que Paul recherche? Vous l'avez vu? Regardez la fin du verset 11. La dernière expression du paragraphe. À la gloire et à la louange de qui? De Dieu. Vous y êtes? C'est la prière de Paul. Que Dieu soit glorifié. Donc, je vous demande, est-ce que vous avez vu, vous pouvez penser à quelqu'un, un pécheur, mais vraiment quelqu'un qui était au bout de lui-même, et Dieu l'a pris, et Dieu l'a sauvé, et Dieu l'a justifié, et puis Dieu a fait un travail en lui ou en elle, et l'a transformé. Jusqu'au point où vous voyez maintenant dans cette même individu un amour qui augmente de plus en plus chaque jour. Vraiment un caractère qui est irréprochable. Et vous voyez les fruits de son salut partout dans sa vie. Est-ce que vous avez vu quelqu'un comme ça? Eh bien, je vous promets que si vous l'avez vu, ça donne gloire et louange à Dieu. Ça lui glorifie. Et aimeriez-vous être comme cette personne aussi? Dieu le veut pour tous. Ce n'est pas une position statique, mais un processus continuellement de perfection. Ça s'applique à nous tous, n'importe où nous sommes, dans notre maturité, dans notre perfection chrétienne. Et donc, si vous êtes comme moi, vous pensez, eh bien, j'ai encore beaucoup de chemin à faire, hein? Laissez-moi vous rappeler pour votre propre confort que cette discussion entière de maturité et de perfection chrétienne nous vient sous forme d'une prière. Donc si vous êtes touché, si vous voulez changer, l'évidence va se montrer premièrement dans votre vie de prière. Vous allez prier pour ces choses. Que Dieu nous aide tous à grandir en lui. Prions maintenant ensemble. Seigneur, notre Père, nous te demandons de prendre ces choses qu'on a considérées ensemble dans ce texte et de les travailler dans nos cœurs. Nous te demandons de nous changer, de nous purifier, de nous perfectionner, que tu fasses croître l'amour en nous de plus en plus, en connaissance, dans la sagesse du discernement, pour savoir choisir et approuver le meilleur entre les choix que nous avons devant nous. Et donne-nous tous un caractère pur et irréprochable. Et donne-nous à démontrer devant tout le monde, par nos vies, la justice que tu nous donnes en Christ, le salut qui est la nôtre, à cause de ton Fils. Que notre vie chrétienne soit mise en évidence pour tous ceux qui sont autour de nous. Aide-nous, Seigneur, à grandir en toi. Amen.